Avant d'aborder les chapitres 65 et 66 d'Ésaïe, qui sont des petites merveilles qui emportent notre adhésion et nous donnent de l'espérance que Dieu aura le mot final de l'histoire en recréant de nouveaux cieux, une nouvelle terre où nous habiterons éternellement. Nous allons regarder aujourd'hui les versets précédents, à partir du chapitre 63 et le verset 7 d'Ésaïe et le chapitre 64. Il s'agit d'une magnifique prière d'Ésaïe. Il prie pour son peuple, le peuple d'Israël, le peuple élu de l'ancienne alliance. Mais dans un sens, comme dit la Bible d'ailleurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, notre vie chrétienne passe par les mêmes étapes, bien souvent, que le vécu du peuple d'Israël. Et je rappelle un verset que j'ai souvent cité dans cette série sur Ésaïe, Romains 15, verset 4, « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. » Et donc, nous allons nous permettre, plus que cela, le texte nous autorise, comme la lecture de Romains 15, à voir dans cette prière un reflet de notre expérience de Dieu en tant que peuple de la Nouvelle Alliance. Et c'est là où je veux mettre l'accent pendant cette prédication. Bien sûr, je n'oublie pas le contexte d'origine, on en parle largement depuis des mois avec cette série sur Ésaïe. Mais je n'ai pas besoin de le rappeler continuellement, car il y a des leçons pour nous dans ce texte, pour nous, c'est-à-dire chacun de nous individuellement, et aussi nos églises, parce que quelque part l'être humain, même régénéré, c'est-à-dire né de nouveau, peut passer par les mêmes méandres spirituels que le peuple d'Israël de l'ancienne alliance. Donc, nous allons lire cette prière. J'ai vu qu'il y a six étapes, en quelque sorte, dans l'expérience spirituelle d'Israël, dans ce texte, six étapes que, étrangement, nous, en tant que chrétiens, on peut vivre. Ce texte nous invite donc à la fois à la lucidité, pour savoir ce que nous sommes, mais la confiance en Dieu qui reste, lui, inchangeable, lui ne change pas, lui reste le même, c'est nous qui changeons, mais parfois ces changements ne sont pas positifs, alors que d'autres changements sont positifs parce que le Seigneur veut nous transformer pour être à l'image de son Fils Jésus. Nous allons donc lire cette prière en six étapes et on va surtout l'appliquer à nous aujourd'hui. Ésaïe, chapitre 63, les versets 7 à 9. Je rappellerai les bontés de l'Éternel, ses actes dignes de louange, tout ce qu'il a fait pour nous. Je dirai tous les bienfaits qu'il a accordés à la communauté d'Israël, conformément à ses compassions et à la richesse de ses bontés. Il avait dit, « Assurément, ils sont mon peuple, des enfants qui ne se donneront pas aux mensonges, et il a été un sauveur pour eux. Dans toute leur détresse, il a souffert avec eux, et l'ange qui est devant lui les a sauvés. C'est lui-même qui les a rachetés dans son amour et sa compassion. Et constamment, par le passé, il les a soutenus et portés. » Donc, le verset 7 résume bien, « Je rappellerai les bontés de l'Éternel. Il est digne de louange, comme ce verset 7 le dit aussi. Ésaïe fait l'éloge de Dieu, il rend grâce, il le remercie. Pourquoi ? Pour tant de bienfaits. Je prends au fil de ces versets. Ce qu'il a fait pour nous, ses bienfaits, selon ses compassions et sa bonté. Il est un sauveur pour nous. Il les a rachetés dans son amour et sa compassion. Et depuis, il les a soutenus et portés. » Tout ce texte pourrait être presque un texte du Nouveau Testament. Je pense par exemple à deux textes en particulier qui sont très proches. Éphésiens 2, partir du verset 4, Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, nous a rendus à la vie. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et puis, Philippiens chapitre 1 et le verset 6, pour le soutien, comme Esaïe l'a dit, il les a soutenus et portés par le passé. Philippiens 1 et le verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Donc, dans cette première des six sections, tout commence bien. Les bontés de l'Éternel qui nous rachètent, qui nous délivrent, qui nous sauvent, c'est notre conversion. Et tous ceux qui sont véritablement chrétiens se souviennent de ce moment où, comme les écailles qui leur sont tombées des yeux, ils ont compris la bonté et l'amour de Dieu. Il lui a fait confiance dans sa grâce. Il les a sauvés, il nous a sauvés. Et c'est pour cela que la meilleure chose à faire tout au long de notre vie, c'est, comme le début de cette prière d'Ésaïe, je rappellerai les bontés de l'Éternel, ses actes dignes de louange. C'est la base de notre vie avec lui, de reconnaître tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera pour nous. Malheureusement, nous sommes dans un monde déchu et comme le titre de ce célèbre film, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, même la vie chrétienne. Et je pense que c'est l'expérience de tout chrétien qu'il y a des hauts et des bas, des moments forts, des moments faibles. Et c'est la suite de ce psaume. Donc Esaïe parle de l'expérience du peuple d'Israël, mais c'est notre expérience aussi. Ça peut être notre expérience. Je lis donc les versets 10 à 14. Ésaïe 63, 10 à 14. Cependant, ils se sont révoltés. Ils ont attristé son Esprit Saint, de sorte qu'il s'est transformé pour eux en ennemi. Il a lui-même combattu contre eux. Alors son peuple s'est souvenu des jours passés de l'époque de Moïse. Où est-il, celui qui les a fait ressortir de la mer avec les bergers de son troupeau? Où est-il, celui qui mettait son Esprit Saint au milieu d'eux? Où est-il, celui qui a envoyé son bras splendide à la droite de Moïse, qui a fendu l'eau devant eux, se faisant ainsi une réputation éternelle? Où est-il, celui qui les a conduits dans les profondeurs de l'eau comme un cheval dans le désert, sans même qu'il trébuche? Comme un troupeau qui gagne la vallée, l'Esprit de l'Éternel leur a accordé le repos. Voilà comment tu conduisais ton peuple, te faisant ainsi une réputation splendide. Le verset 10 le dit en toutes lettres, cependant, ils se sont révoltés. C'est incroyable, après tout ce que le Seigneur avait fait pour Israël, donc dans les versets 11 à 14, Esaïe se rappelle tout ce qui s'est passé à l'époque de Moïse. Il a dit, son peuple s'est souvenu des jours passés de l'époque de Moïse. Mais où est-il maintenant, le Seigneur? Mais le Seigneur n'a pas changé. C'est le verset 10 qui explique. Ils se sont révoltés. Et cela est suivi d'une expression qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Ils ont attristé son Esprit Saint. Donc, Paul reprend cette expression dans Éphésiens 4, le verset 30. Éphésiens 4, verset 30. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. On va dire, en quelque sorte, incroyable, mais vrai. Après tout ce que l'Éternel avait fait pour Israël, après tout ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, pourquoi se révolter? Pourquoi pas vivre tous les jours comme il le dit? Mais cette petite révolte en nous est bien réelle. Sinon, pourquoi Paul aurait-il écrit toutes ces lettres? toutes ces épîtres où il s'adresse à l'Église pour les exhorter à continuer à se laisser transformer par le Saint-Esprit. Alors, de quoi s'agit-il? Quelle est cette révolte dans Éphésiens 4, 30 qui attriste le Saint-Esprit? Bon, les versets précédents l'expriment. Je vais lire à partir du verset 25, Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun de la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui est volé cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Donc plusieurs choses là qui peuvent attrister le Saint-Esprit. Et comme je viens de le dire, si Paul l'écrit à ses chrétiens, c'est parce qu'ils auraient pu être tentés ou même ils se laissaient tenter et embarquer dans ses péchés. Il y en a plusieurs. Le fait de ne pas dire la vérité à son prochain, le fait de se mettre en colère, le fait de voler plutôt que de travailler honnêtement de ses mains, et le fait de dire des paroles malsaines plutôt que des bonnes paroles qui servent à construire, à édifier les chrétiens en transmettant en grâce à ceux qui les entendent. Le résultat, quand on attriste le Saint-Esprit, c'est que Dieu semble s'éloigner. Et c'est pour la raison pour laquelle, par quatre fois, dans les versets que nous avons lus dans Ésaïe, nous avons la question « Où est-il ? Où est-il ce Dieu ?» Et cela rappelle David dans le psaume 51, le verset 14, donc ce psaume où il se repent de son adultère avec Bathsheba, et il dit « Rends-moi la joie de mon salut. » David n'a pas perdu son salut donné par la grâce, mais il avait complètement perdu la joie de ce salut. Et c'est une étape par laquelle tout chrétien peut passer. Sauvé, je crois que personne ne peut nous arracher à la main de Dieu. Une fois que nous sommes sauvés, il va nous garder. Mais nous pouvons nous révolter, nous éloigner de lui, attrister le Saint-Esprit et se poser la question, mais où est Dieu alors? C'est pour ça qu'il faut lire la suite de cette prière d'Ésaïe. Dans cette situation, le prophète Ésaïe reprend donc au verset 15 et il dit, regarde du haut du ciel et constate la situation. Nous lirons donc du verset 15 au verset 19. Regarde du haut du ciel et constate la situation. Du haut de ta sainte et splendide résidence, où sont passés ton zèle et ta puissance? Ta profonde tendresse et tes compassions envers moi ne se font plus sentir. C'est toi cependant qui es notre Père. En effet, Abraham ne nous connaît pas. Israël ignore qui nous sommes. C'est toi l'Éternel qui est notre Père. C'est toi qui depuis toujours t'appelles notre libérateur. Éternel, pourquoi nous fais-tu errer loin de tes voies? Pourquoi endurcis-tu notre cœur pour qu'il ne te craigne pas? Reviens à cause de tes serviteurs, à cause des tribus qui t'appartiennent. Ton peuple saint n'a été que peu de temps en possession du pays, et nos adversaires ont piétiné ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple sur lequel tu n'exerces plus ta souveraineté et qui n'est pas appelé de ton nom. Si seulement tu déchirais le ciel et descendais, les montagnes s'effondreraient devant toi. C'est presque un peu étrange. C'est presque comme si, dans la prière d'Ésaïe, il pense que la faute se trouve du côté de Dieu. Il dit, mais regarde du haut du ciel et constate la situation. Ta profonde tendresse et tes compassions envers moi ne se font plus sentir. Ou encore pire, au verset 17, Éternel, pourquoi nous fais-tu errer loin de tes voies? Pourquoi endurcis-tu notre cœur pour qu'il ne te craigne pas. Mais c'est à ce moment-là qu'il se souvient. Et il y a une expression qui revient deux fois dans ce texte, une expression d'ailleurs qui est relativement rare dans l'Ancien Testament, mais qui est très très souvent utilisée dans le Nouveau Testament, « Notre Père ». Le verset 16, il dit par exemple, « C'est toi cependant qui es notre Père ». Il se rend compte que appartenir à un peuple en tant que tel ne sert à rien, ça n'aide pas. C'est à Dieu lui-même qu'il faut crier. Je reviens au verset 16. En effet, Abraham ne nous connaît pas. Israël, c'est-à-dire Jacob, ignore qui nous sommes. Mais c'est toi, Éternel, qui es notre Père. Et donc, à ce moment-là, ça change quelque chose. Ésaïe se rend compte qu'il y a une relation entre notre Père et nous, ses enfants. Et ça change tout dans la façon de voir les choses. En effet, il se trouve devant deux problèmes. Comme nous, toujours, tout au long de notre vie. Deux problèmes. D'abord, on a besoin d'être délivré de nos adversaires. Et dans un deuxième temps, ou peut-être même en même temps, de nous-mêmes. Il y a nos adversaires. En ce qui concerne le peuple d'Israël, il dit bien au verset 18, « Ton peuple saint n'a été que peu de temps en possession du pays, et nos adversaires ont piétiné ton sanctuaire. » Donc ils avaient besoin d'être délivrés des adversaires. Mais en fait, le problème est aussi en interne. C'est un peuple qui ne se soumet pas. Verset 19, « Nous sommes depuis longtemps comme un peuple sur lequel tu n'exerces pas ta souveraineté et qui n'est pas appelé de ton nom. » Ou, je lis la traduction de la Bible en français courant, « Nous ne sommes plus le peuple sur lequel tu règnes, le peuple qui porte ton nom. » Ésaïe, donc, reconnaît cette réalité et il demande au Seigneur d'intervenir dans la situation. Certes, la faute, comme on a vu au verset 10, c'est ils se sont révoltés et on a attristé le Saint-Esprit. Mais on demande au Seigneur de venir. D'abord au verset 17, « Éternel, reviens à cause de tes serviteurs. » Et puis une expression encore plus forte au verset 19, « Si seulement tu déchirais le ciel, et descendez les montagnes, s'effondreraient devant toi. » Le ciel, c'est le lieu d'habitation de Dieu. Ça, c'est clair dans toute la Bible. Par exemple, dans le psaume 115, il dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Et dans l'Ecclésiaste, il y a le contraste qui est établi entre Dieu et nous. Ecclésiaste 5, verset 1, « Dieu est au ciel et toi sur la terre. » Donc, qu'est-ce qui demande que Dieu, en quelque sorte, quitte le ciel et descend pour intervenir en faveur de son peuple? La réalité la plus remarquable de cela, c'est la venue de Jésus. En quelque sorte, le ciel a laissé partir Jésus pour vivre sur la terre. Il a déchiré les frontières de ce ciel, la demeure de Dieu, la demeure du Fils éternel pour venir sur la terre. Donc cela ouvre vraiment de nouvelles perspectives. Et c'est à ce moment-là que nous voyons comment, en quelque sorte, il y a une... au partir du chapitre 64, une façon de comprendre les choses entre la responsabilité de l'être humain, du peuple d'Israël, du chrétien, et l'action de Dieu. Je vais lire donc d'abord les versets 1 à 4 du chapitre 64. « Tu serais pareil au feu qui allume des brindilles ou fait bouillir l'eau. Tes adversaires connaîtraient ton nom, les nations trembleraient devant toi. » C'est un peu la suite de déchirer le ciel. Verset 2. Lorsque tu as fait des prodiges que nous n'attendions pas, tu es descendu et les montagnes se sont effondrées devant toi. Jamais on n'a appris d'ayant entendu dire pareille chose. Jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière, pour ceux qui comptent sur lui. Tu vas à la rencontre de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui se souviennent de toi en marchant dans tes voies. Cependant, tu as été irrité parce que nous avons péché. Pourtant, c'est en les suivant, donc les voies du Seigneur, c'est en les suivant toujours que nous pouvons être sauvés. Alors, à ce moment-là, on voit que le Seigneur intervient au verset 3 et verset 4. Il intervient au verset 3 en faveur de ceux qui comptent sur lui, et au verset 4, à la rencontre de celui qui pratique la justice. Alors, comment comprendre ça? Il parle donc du salut, au verset 4. Nous pouvons être sauvés. Pour bien comprendre cela, je vais revenir sur un thème que j'ai déjà abordé lors de prédication, c'est que le mot salut est très large. Le mot salut inclut le passé, le présent et le futur. Le salut est global. Le salut est passé. En Éphésiens 2, nous avons été sauvés par la grâce. Dans 1 Corinthiens 1, 18, je lis 1 Corinthiens 1 et le verset 18. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Nous qui sommes sauvés, il y a des traductions de la Bible qui mettent qu'ils sont en train d'être sauvés. Donc, le salut, c'est la sanctification que le Seigneur met en œuvre dans notre vie, et c'est pour cela que dans Philippiens 2, nous lisons ce texte qui dit « Mettez en œuvre votre salut ou travaillez votre salut avec crainte et profond respect. Ce n'est pas pour gagner le salut, c'est pour travailler sur le salut que nous avons déjà reçu. Mais ce salut ne serait parfait que lorsque le Seigneur reviendra pour mettre fin au monde actuel, ou peut-être dans certains cas pour les gens qui partent auprès de lui avant cet événement. On peut lire par exemple en Hébreux 9 et le verset 28. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et Pierre dit la même chose dans sa première épître, chapitre 1, verset 5 par exemple, et parle du salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ou, au verset 9, le salut que vous obtiendrez pour prix de votre foi, à cause de notre foi. Donc, il ne s'agit pas ici du salut pour devenir chrétien. Bon, là, ça faisait partie des bontés de l'Éternel, sa compassion avec laquelle nous avons commencé cette étude. Il s'agit de travailler à notre salut. Et dans ce sens-là, il ne faut surtout pas minimiser nos fautes. Et le début de ce chapitre parle du Seigneur comme un feu... L'idée qui est reprise dans l'Épître aux Hébreux, par exemple le chapitre 10 et le verset 31, qui dit « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant », et au chapitre 12 et le verset 29, il dit « Notre Dieu est en effet un feu dévorant ». Donc, la question qui est posée, et qui s'oppose à tout chrétien, c'est comment on va à la fois concilier cette sainteté de Dieu qui est profonde, qui est forte comme un feu dévorant, comment concilier cela avec notre défaillance, avec notre faiblesse en tant que chrétien. Comme Paul l'a déclaré dans Romains 7, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je déteste. Donc, maintenant qu'on a fixé au moins l'enjeu dans la tête, nous allons pouvoir lire les versets 5 à 8 qui vont donner en quelque sorte une réponse à cela. Donc, je lis Ésaïe 54 à partir du verset 5. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs et toute notre justice apparaît un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille et nos fautes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui fasse appel à ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. C'est que tu t'es caché à nous, tu nous laisses nous liquéfier par l'intermédiaire de nos propres fautes. Cependant, Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Ne t'irrite pas à l'excès d'Éternel, ô Éternel. Ne te souviens pas indéfiniment de notre faute. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Donc, ce que l'on voit, c'est d'une part notre incapacité à faire le bien. Nous sommes devenus comme des objets impurs. Il n'y a personne qui fasse appel à ton nom. Ce sont des mots très forts, hein, comme Paul qui disait, on l'a lu tout à l'heure, « Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je déteste. » Mais on reconnaît aussi, et le verset 7 commence avec un mot très fort, « Cependant, Éternel, c'est quoi toi qui es notre Père ?» Encore une fois, comme le verset 16 du chapitre 63, qui avait deux fois parlé du Père, encore une fois, « Cependant, Éternel, c'est toi qui es notre Père. » Et qu'est-ce qui fait un Père? Il éduque ses enfants. C'est le rôle principal du Père d'être l'éducateur. C'est d'élever les enfants qu'il a mis au monde en quelque sorte. Hein. Donc, le rôle du Père, c'est d'être un éducateur. C'est que l'enfant doit reconnaître ses limites et vouloir apprendre. Dans la vie de tous les jours, on le voit, des petits-enfants qui s'opposent à leurs parents, qui sont très égoïstes, qui crient, qui pleurent, etc. Ou les ados qui rentrent dans une sorte de révolte en pensant savoir mieux que les parents. Mais un parent sage et patient va éduquer l'enfant à être le fils ou la fille qui voudrait que cet enfant soit. Une deuxième image suit tout de suite. Nous sommes l'argile, tu es notre potier. Donc, encore une image qui a reprise dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, pour répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure, comment concilier la sainteté de Dieu et notre défaillance, c'est que nous sommes pécheurs, mais Dieu est à l'œuvre dans notre vie. Nous sommes à la fois pécheurs, mais pardonnés, pécheurs réels, où le Seigneur nous conduit sur la voie de la sanctification parce qu'il est notre Père et parce qu'il est comme un potier qui est en train de faire de nous un vase d'honneur pour sa gloire. Alors, terminons donc cette prière avec les trois derniers versets du chapitre 64. Pourtant, tes villes saintes se sont transformées en désert. Sion est un désert, Jérusalem un endroit dévasté. Notre saint et splendide temple où nos ancêtres célébraient tes louanges est devenu la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux est en ruine. Devant tout cela, Éternel, te retiendras-tu d'intervenir? Vas-tu garder le silence et nous humilier à l'excès? En fait, on ne s'attend pas à cette fin. La prière qui a commencé au chapitre 63 en faisant l'éloge de Dieu, en reconnaissant notre faiblesse, en voyant que Dieu est notre Père, le potier qui nous transforme, maintenant, en quelque sorte, à la fin de ce psaume, est le Dieu qui se cache, une expression qui a déjà été utilisée au verset 6, et qui apparemment, aux yeux d'Ésaïe au moins, garde le silence. Si on revient à la situation du peuple d'Israël, Jérusalem était dévastée, Sion était désert. On peut dire, nous, nos églises semblent petites, hyper minoritaires, sans influence dans la société, et même si nous avons la conviction d'être un peuple qui appartient au Seigneur, qui cherche à vivre pour lui, qui a la vie éternelle, Eh bien, on a l'impression quand même que le nom de Dieu n'est pas honoré, malgré la prière répétée depuis des siècles, par les chrétiens, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, est-ce que nous aussi, on oserait crier à Dieu, vas-tu garder le silence? Dans un sens, c'est normal. Parce que après la prière de louange, après la prière de confession, on arrive à la fin, à la prière de l'intercession. On l'avait déjà vu au chapitre 62, donc lors de ma dernière prédication enregistrée, où le prophète a été audacieux en disant, je lis les versets 6 et 7 du chapitre 62, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne resteront jamais silencieux, de jour comme de nuit. Et vous qui êtes chargés de la rappeler à l'Éternel, ne vous accordez aucun répit. Bon, donc je lis le verset 6 en fait. N'accordez aucun répit à l'Éternel. C'est assez étrange comme façon de voir. Mais cela rejoint en fait une parabole de Jésus que nous pouvons lire dans Luc 18. Dans Luc 18, c'est la parabole qui concerne la veuve et le juge inique. Donc qui vient lui, selon les traductions, casser les oreilles pour demander justice. Et à la fin de cette parabole, Jésus dit, Luc 18, verset 7, Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Donc là, on est exactement dans le même registre qu'Ésaïe dans ce chapitre. Éternel, est-ce que tu veux garder le silence? Pourquoi tu n'interviendrais pas pour sauver du monde? Ça me fait penser avec une prière, on peut dire avec un brin d'humour de Spurgeon, le grand prédicateur britannique du 19e siècle, qui disait « Seigneur, sauve les élus, et puis élis-en beaucoup d'autres ». Donc, je ne sais pas, on ne peut pas forcer le Seigneur à faire les choses contraires à sa volonté, mais ce que le Seigneur veut, c'est notre désir que son nom soit glorifié, honoré, sanctifié. Mais je termine cette prédication avec la suite de l'application de Jésus dans cette parabole dans Luc. Donc, il a dit au verset 7, Dieu ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Mais il termine en disant, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, laisserons-nous interpeller par cela, louons le Seigneur, faisons son éloge, reconnaissons notre péché, reconnaissant et demandant lui d'œuvrer dans notre vie comme père et comme potier, mais aussi intercédons pour le monde pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen.